Je vais vous proposer ce matin de lire Jude. Jude. La première question qu'on se pose, c'est où ça se trouve ?
Avant Apocalypse.
Mais j'ai de bons souvenirs avec vous parce que je me souviens qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai dû prêcher ici et je vous ai dit que j'allais prêcher sur un livre qu'on ouvrait presque jamais, sur le livre de Job. Et mon prédécesseur avait parlé exactement sur le même sujet le dimanche d'avant. Je voyais Laurette qui souriait et elle s'en souvient aussi bien que moi, n'est-ce pas ? Ce matin, donc, je vais vous proposer de lire Jude. Je vais vous dire d'emblée que je ne répondrai pas à toutes vos questions. Et je n'ai pas répondu à toutes mes questions. Parce qu'en fait, l'épître de Jude, comme j'ai mis là, hein, c'est une épître pleine de bombes. Alors, ça ne va pas nous exploser à la figure, parce que de toute façon, je ne les désamorcerai même pas. J'en parlerai en disant que dans l'épître de Jude, il y a un certain nombre de sujets qui sont abordés. Et on dit à chaque fois, et je vous le dirai aussi ce matin, je vous dirai que c'est un sujet très important, mais il est tellement important que je ne vais pas le traiter ce matin. Qui a rigolé ? Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit « Que le Seigneur te réprime ». Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire, dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dont vous agapent, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents. Des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés. Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés. Des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, des Français quoi, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu et pour d'autres encore. Ayez une piété mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par leur chair. Par la chair, pardon. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force, puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Quand est-ce que vous avez lu ce texte pour la dernière fois? C'est la question que je me suis posée à moi-même. C'est une épître tellement petite que de toute façon, soit je l'ai oubliée, je suis passé par au-dessus, soit je me suis dit que ce n'était pas la peine, que je l'avais déjà lu une fois et ça suffisait. Étonnant, non? J'ai commencé à étudier, il n'y a pas très longtemps, ce texte pour un groupe d'études bibliques, une cellule, comme on dit chez nous. J'ai dû me rendre compte que le texte n'était pas aussi simple. J'ai mentionné là qu'il était bourré de bombes. Mais ce n'est pas pour cela qu'il ne faut pas le regarder. Vous avez bien étudié à plusieurs reprises le livre de Job, même s'il n'est pas simple. Vous en avez étudié d'autres et je pense qu'avec tous les orateurs que vous avez eus, et Dieu merci et ça m'encourage chaque fois que je vois cette liste paraître, toutes les personnes qui peuvent venir les unes après les autres pour célébrer le culte ensemble, vous avez dû voir, je pense, déjà un bon nombre de passages bibliques les uns après les autres, mais il y en a certains. On ne les évite pas, mais on a peut-être tendance à passer à côté, voire à les oublier. Jude, qui donc est Jude? Qui donc est Jude? Qui est Jude? Je regarde la demoiselle en blanc, là, qui est en train de se poser la même question que je suis en train de poser, donc elle ne me répondra pas. C'est ça?
Ouais.
Merci. Qui est Jude? Le frère de Jacques. C'est bien, vous savez lire. Et Jude, en fait, a quand même quelque chose d'exceptionnel, étant le frère de Jacques. Mais en réalité, c'est le frère de Jésus, le demi-frère de Jésus, pour être plus exact. Et Jude, quand on va lire son épître, ne va pas arrêter de s'appuyer ou de réfléchir sur deux axes principaux. La première chose, qui n'est pas des moindres, c'est qu'il va reconnaître officiellement, j'allais dire la messianité, je vais dire la divinité de son demi-frère. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Reconnaître que quelqu'un qui habitait là à côté de lui, quelqu'un avec lequel il a vécu, quelqu'un avec lequel il s'est peut-être chamaillé, c'est Dieu lui-même incarné. Son demi-frère. Mais il va vivre avec cela avec une grande humilité. Jamais, au grand jamais, il n'a utilisé sa relation filiale avec Jésus pour avoir une sorte de notoriété dans le monde dans lequel il a évolué. La preuve, il n'a pas dit « frère de Jésus », il a dit « serviteur de Jésus ». J'en reparlerai tout à l'heure. La seconde chose qu'il va faire, et pas des moindres, ce qui va laisser un enseignement assez profond, une mise en garde des chrétiens sur ce qui concerne l'apostasie. Il nous appelle à rester proches du Seigneur et du sien, de notre Seigneur et du sien, avec cette mise en garde contre l'apostasie. Quand je regarde toutes ces choses, et notamment Jude qui va appuyer sur le fait qu'il nous faut grandir dans la connaissance biblique, je vais faire appel à quatre « n'oublions jamais ». N'oublions jamais. Parce qu'il y a des vérités que nous connaissons par cœur et que nous avons du mal à pouvoir remettre à l'intérieur de nos vies. Et j'ai mis ces quatre points en introduction. Et le premier, c'est n'oublions jamais que la plus grande distance qui existe n'est pas celle entre Mars et la France, j'allais dire, et la Terre, mais entre la tête et le cœur. Savoir et mettre en pratique. Le deuxième, n'oublions jamais, que j'ai mentionné là, c'est qu'il nous faut ne jamais oublier ce que Paul va déclarer dans 1 Corinthiens 10, verset 12, notamment à propos de l'apostasie, que celui qui se croit debout prenne garde de ne pas tomber. Ou prenne garde de tomber. Le troisième, n'oublions jamais que des loups sont dans l'Église ou dans l'Église universelle, voire dans les Églises, et que le monde est plus proche de nos cœurs que ce qu'on l'imagine, proche de nos cœurs et de nos Églises, et tente, voire même réussit à y entrer par bribes, voire à l'usure. Quand on repense à Paul, à toute la description qu'il va donner sur sa relation avec le péché dans Romains chapitre 7, je ne fais pas ce que je voudrais faire, je fais ce que je voudrais pas faire, et je vous laisse la suite de la lecture. On peut se rendre compte combien le péché est attaché à nous plus que ce qu'on imagine. Quatrième et dernier dans l'introduction, n'oublions jamais que Jésus nous fait aller de victoire en victoire dans cette guerre sans pitié dans laquelle nous sommes plongés à notre insu. On est en guerre et on l'a souvent oublié. On se croit en sécurité et en fait on ne l'est pas du tout. Pour arriver plus loin dans l'analyse de cette épître, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais donc seulement voir trois points qui me paraissent importants, mais je ne vais pas faire l'analyse comme on le ferait dans une étude biblique, et encore moins analyser les grandes problématiques. Je vais juste prendre trois points sur lesquels je veux m'appuyer ce matin pour nous aider à aller de l'avant d'une manière personnelle. Le premier point est le suivant, serviteur de Jésus-Christ. Jude va déclarer ça lui-même, serviteur. En fait, quand vous relisez les épîtres, quelles qu'elles soient, dans la plupart des cas, Pierre, Paul, Jacques et d'autres vont reprendre ce terme de serviteur, et ce terme de serviteur qu'on pourrait traduire dans la plupart des cas par esclave. C'est vrai que c'est un mot qu'on n'apprécie plus du tout aujourd'hui, puisqu'on a aboli l'esclavage et que esclave, ça nous fait froid dans le dos, et que esclavage nous fait penser aussi à soumission. Et là, la soumission, aïe aïe aïe. Surtout pas un truc qu'on doit prononcer aujourd'hui, ça fait partie des mots grossiers, n'est-ce pas, mesdemoiselles ? On en parlera plus tard. Hein ? J'ai bien aimé la moue que tu as fait. Paul, Jacques, Pierre et d'autres se sont invités aussi dans leurs épîtres comme esclaves de Christ, serviteurs de Christ. Jésus lui-même nous aura donné l'exemple. Et l'exemple, un des exemples qu'on va y voir, c'est l'exemple du lavage des pieds. Je ne sais jamais si on dit lavage ou lavement. Soit, Jésus a lavé ses pieds, les pieds de ses disciples, Jean chapitre 13. C'est assez étonnant de voir comment Jésus a osé être au service d'eux. Et Pierre avait refusé au départ, et souvenez-vous de Pierre, quand tout d'un coup il a commencé à comprendre la portée de l'acte que Jésus était en train de faire. C'est Pierre qui va dire, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi la tête, aussi le corps. Lave-moi en entier. Jésus lui dira, non, c'est pas nécessaire. L'enseignement de Jésus va reposer aussi sur cette notion de service, d'être au service d'eux. Et l'enseignement va reposer sur un mot qui n'existe pas dans notre vocabulaire français, semble-t-il, le discipula, être disciple d'eux, discipula. À ma grande surprise, j'ai vu Word, mais bon, on n'est pas tout à fait d'accord tous les deux, Word, donc c'est le logiciel que j'utilise comme beaucoup pour écrire mes messages et d'autres choses, et tout d'un coup, il m'a souligné discipula en rouge, qui voulait dire que j'ai écrit ça avec une faute. Alors, je dis, bon, ben d'accord. Tu me dis qu'il y a une faute, alors tu corriges. Et il m'a dit, il ne peut pas corriger. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ignore ou est-ce que j'apprends? Je dis, ah, disciple, ça existe, non? Vous êtes d'accord? Discipula, ça existe ou pas?
Oui.
Oui?
Moi, je suis d'accord.
Toi, t'es d'accord? Et pas le dictionnaire, hein?
Et j'écrirais ça D-I-S-C-I.
Voilà. Et autre chose. Et autre chose. En fait, j'ai fini par trouver, avec mon ordinateur, que ça existait dans un dictionnaire latin. C'est un mot, merci, un mot latin qui s'est arrêté à ce moment-là, à ma grande surprise. Mais c'était ainsi. Jésus au service d'eux. C'est assez étonnant de voir Jésus comme exemple dans ce service, et il va être au service de son Père. Je ne fais rien de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Assez étonnant. Jean 5, verset 30. Matthieu 26, verset 39. Une parole encore beaucoup plus dure et qui devrait me faire réfléchir. Matthieu 26, verset 39. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Toujours prêt à être au service. Mais nous sommes de bons serviteurs, ou presque. Je me demande si de temps en temps, on ne peut pas s'identifier, ou on n'a pas des tendances des fils de Zébédée, qui sont venus voir Jésus, et qui leur ont fait une demande tout à fait particulière. Marc 10, à partir du verset 35, où il est dit, « Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. » Et il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » ?»« Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Non, non, ça m'arrive jamais, ça. Pas devant les autres. Marie, qui contestait le ministère de son frère, et bien d'autres qu'on pourrait voir comme cela, des traits de caractère que je peux retrouver aussi dans ma vie de tous les jours. Jude, esclave de Christ, son demi-frère, qui va dire aussi qu'il est frère de Jacques. Ben alors pourquoi il n'a pas dit qu'il était frère de Jésus? Ça aurait été plus simple. Alors peut-être certains peuvent imaginer qu'il a un compte à régler avec son frère et que peut-être il en a une certaine honte. C'est pourquoi il ne va pas en parler. Je ne suis pas de cet avis. Jésus n'était pas considéré comme un imposteur par Jude. Mais c'est Jude qui, avec humilité, va reconnaître à plusieurs reprises à l'intérieur de son épître la divinité même de Christ. Et si vous relisez, et si vous faites comme moi, si vous surlignez tous les passages et toutes les choses qui reviennent assez fréquemment à l'intérieur de la parole de Dieu, à l'intérieur du texte, vous allez découvrir combien de fois Jude va parler de Jésus comme notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Il va remettre Christ réellement à sa place, à la place où moi, je devrais réellement le mettre. Il ne voulait pas le cacher, il ne voulait pas l'éluder, il ne voulait pas enlever cette notion filiale qu'ils avaient entre les deux. Il voulait seulement mettre Christ à sa place et lui à la sienne. Il va reconnaître quand même, Jude, qu'il a été adopté comme fils de Dieu. Cette notion, vous allez trouver dans les premiers versets. Il se reconnaîtra, ou il reconnaîtra Dieu comme Dieu son Père. Il sera donc reconnu, il se reconnaîtra comme fils de Dieu. Jude parlera de sa filiation divine directe au travers de Christ. Il entre dans la famille de Dieu par adoption, composant ainsi l'épouse même de Dieu qui attend avec impatience son retour pour le banquet final. Qu'est-ce que je vais découvrir encore dans les premiers versets? Je vais découvrir une autre notion. Et celle-là, je ne vais pas aller jusqu'au bout, je vous l'ai dit tout à l'heure. Appeler, aimer et garder pour Jésus-Christ. Appeler. On pourrait discuter pendant très très longtemps de ce mot et venir sur une notion qui s'appelle la prédestination. Quand est-ce que vous avez eu votre dernier message sur la prédestination? T'étais déjà né quand même. Oui, ben oui, j'aborderai pas le sujet. Vous êtes déçus, moi aussi. Mais quand j'ai vu l'ampleur du sujet, je me suis dit, j'y reviendrai. C'est sûr, j'y reviendrai. Parce qu'en fait, comme me disait un de mes collègues l'autre jour, ça fait des siècles qu'on en parle. Qu'il y a des grandes tendances par rapport à ce sujet, qu'au travers de notre lecture de la parole et de l'interprétation des Écritures, on n'arrive pas à définir exactement ce que cache ce mot que nous avons inventé. Mais il est pourtant important qu'on s'y penche un jour ou l'autre, même si je vous laisse sur votre faim ce matin pour voir qu'est-ce que le Seigneur aimerait nous dire, tout en sachant que nous ne pouvons pas avoir toute la connaissance de Dieu et que nous sommes limités pour certaines choses que nous devons comprendre malgré tout. Nous pouvons savoir et avoir accès à cette certitude du salut, appelé, aimé et gardé pour Jésus-Christ. Ce qu'on sait à ce niveau-là, sans aller très loin au niveau de la prédestination, ce qu'on doit retenir, c'est que, première chose, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2,4. On a entendu, on a prêché sur ce verset et on l'a souvent oublié. Est-ce que j'ai conscience que la Vosge, Dieu l'aime et veut l'amener à lui? Deuxième chose, un verset que tous les évangéliques connaissent ou devraient connaître par cœur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jean 3,16. C'est la preuve d'un amour irréfutable, irréfutable d'un amour inconditionnel de Dieu. Dites ce que vous voulez par rapport à la prédestination, Dieu nous aime d'une manière inconditionnelle. Et Dieu va nous laisser encore, et Jésus en particulier, avant de repartir, va nous laisser une parole très importante pour nous aujourd'hui, Matthieu 28, verset 20, qui va dire encore, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20, comme je le disais. Appelé, aimé et gardé pour Jésus-Christ. Paix, amour et miséricorde. C'est ce que je vais trouver dans le verset 2. Et ça, quelque part, ça me fait du bien. Est-ce qu'il y a ça à l'intérieur de ta vie? Est-ce que ça règne à l'intérieur de ton cœur? La seule chose que j'aimerais dire par rapport à ces trois mots, qu'on va retrouver assez fréquemment aussi dans les Épîtres, tout cela vient de Dieu. Et ça ne se mesure pas. Comme diraient certains, je sais que Dieu est avec moi parce que je me sens en paix. Il y a beaucoup de moments où Dieu n'est pas avec moi parce que je ne suis pas toujours en paix. Ça n'empêche que le Seigneur est quand même présent et que la paix et que l'amour et que la miséricorde ne se mesurent pas et pas du tout. Deuxième grand point, je ne sais pas si vous verrez l'image correcte, mais peut-être vous avez déjà vu ça traîner. Voilà. D'extérieur, c'est un mouton, mais si vous voyez bien en dessous, on voit la tête de quoi ? La tête d'un loup. Voilà, c'est une image qui traîne sur Internet. Et j'aurais dû la mettre en plus grand. Deuxième grand point, Jude va arriver discrètement à nous prévenir, ou violemment peut-être, à nous prévenir que l'apostasie existe. L'apostasie, l'acte de se détourner de la vérité divine pour embrasser des enseignements erronés. Ou ma question tout de suite derrière, de quoi ou de qui avoir peur? De quoi ou de qui avoir peur? Dans le monde dans lequel on évolue, il y a plein de questions qui se posent. Une culture qui évolue, mes pensées personnelles évoluent, ma manière de réfléchir évolue. Et je me pose souvent la question, jusqu'où je suis ancré dans le Seigneur, jusqu'où mon éthique est vraiment chrétienne, biblique, jusqu'où est-ce que j'ai commencé à dévier pour ma propre convenance. C'est des questions que je me pose assez fréquemment. Il y a des gens qui ont très facile pour résoudre ce genre de problème. J'ai vu débarquer, il n'y a pas très longtemps, une dame dans mon bureau, qui était là de passage, et elle a été très claire. En l'espace de quelques minutes, elle a déballé tous les griefs qu'elle voyait chez les différentes personnes de l'église, et rassurez-vous, tout le monde y est passé. Évidemment, elle a dit, sauve-toi. Évidemment. Ah oui, j'étais là. Elle a ajouté, il faut remettre de l'ordre. Ma seule réaction était de lui dire, ou de lui poser une question, et toi, ça va comment? La discussion s'est arrêtée là, je ne sais pas pourquoi, mais c'est souvent comme cela. Apostasie. Si on regarde un petit peu la culture ambiante, on est des fois étonné de savoir ce qui s'y fait. Ce qu'on peut penser, loin ou près de nous. Mais de toute façon, la parole de Dieu, elle est très claire. Elle va nous dire que de toute façon, nous vivons dans un monde qui est marqué par le péché. La culture ambiante, elle est pécheresse. La parole de Dieu va l'appeler le monde. Elle est basée sur une culture du profit menée par des cerveaux humanistes, souvent attachés au pouvoir et aux finances. Et les francs-maçons bien balancés dans un spiritisme qui est aussi bien présent. Elle nous impose une persécution apparemment non agressive, mais bien présente, qui ne nous permet pas de la contrecarrer clairement. Et ces derniers temps, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on nous dit que si on n'est pas d'accord avec la pensée unique, c'est que tu es forcément un dangereux d'extrême droite, raciste et perverti. Et toc, vous n'avez pas entendu cela? Si vous ne l'avez pas entendu, je vais vous le confirmer. C'est nécessaire. Rassurez-moi, vous envoyez encore des lettres par la poste. Aujourd'hui, on envoie tellement d'emails que dans le courrier, il n'y a plus que les factures. Il n'y a plus que ça. Mais de temps en temps, on est quand même content d'envoyer une lettre. Surtout à la mamie qui n'a encore pas compris. Pourtant, je ne comprends pas. Elle a 92 ans, elle n'a pas compris comment ça marchait, le mail. Et qu'elle me dit encore, chaque fois qu'elle a une question, quand on est à table, elle se pose une question et qu'elle m'a dit, « Oh, François, tu as bien ça dans ta poche ?» Elle fait allusion à mon téléphone et elle me dit que toujours je trouve tout dans mon téléphone. Alors bon, j'ai déjà expliqué que c'est pas dans mon téléphone que je trouve, mais ça c'est difficile. Quand vous envoyez une lettre, vous mettez un timbre dessus. Et quand j'ai su ce que représentait la représentation qu'il y avait sur le timbre, j'avais presque un peu honte de lécher le timbre pour le mettre là directement sur ma lettre. J'ai honte chaque fois que je lèche le timbre à mettre sur ma lettre pour la France. Ce timbre créé, ou le dernier dessin créé par Olivier Ciappa, et qui explique ceci. J'expliquais lors d'une conversation, m'être en partie inspiré pour Marianne, du leader des femmes, Ina Shevchenko, si ça vous dit quelque chose. Bien évidemment. Depuis que j'ai su ça, je me suis demandé si j'allais jeter mes timbres ou si j'allais continuer à les coller. Quelques petits points que je vais vous lancer, certain nombre de réflexions que j'ai lues, ça et là, et qui sont juste là pour nous aider à réfléchir. Première, ce qui est en cause, c'est l'hétérosexualité en tant que norme. Il nous faut essayer de penser un monde où l'hétérosexualité ne serait pas normale. Éric Fassin, sociologue, promoteur de la théorie du genre en France. Professeur à l'école normale supérieure. Deuxième, toute l'opération consiste bien avec la foi laïque à changer la nature même de la religion de Dieu, du Christ et à terrasser définitivement l'Église. Vincent Peillon, dans un livre qui s'appelle « Une religion pour la République ». La suivante, la laïcité française, son ancrage premier dans l'école, est l'effet d'un mouvement entamé en 1789, celui de la recherche permanente, incessante, obstinée de la religion qui pourra réaliser la révolution comme promesse politique, morale, sociale, spirituelle. Il faut pour cela une religion universelle, ce sera la laïcité. Il faut aussi son temple ou son église, ce sera l'école. Enfin, il lui faut aussi son nouveau clergé, ce sera les hussards noirs de la République. Toujours le même auteur. Dans un autre domaine, des parents, un géniteur, une gestatrice peuvent permettre ensemble la venue au monde d'un enfant, Najat Vallaud Belkacem. Erwan Binet, rapporteur de la loi Taubira, disait « Il faut en finir avec la filiation biologique ». Pierre Berger, vous le connaissez, président de SIDAction, il a des actions aussi assez larges au niveau du journal Le Monde, couturier reconnu, etc., etc. « Moi, je suis pour toutes les libertés. Louer son ventre pour faire un enfant ou louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence ?» La meilleure, et là c'est pour parler aux hommes, la famille est une construction sociale créée par les hommes pour dominer les femmes. Je n'avais jamais entendu celle-là. Roselyne Bachelot, janvier 2013. Je me réveille des fois la nuit en me demandant si je suis bête, si j'ai rien compris, si j'ai raté quelque chose. Je ne suis pas dans l'ambiance, c'est clair. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il faut craindre le plus? Qu'est-ce qu'il faut craindre le plus? La parole de Dieu va nous lancer un rappel important. Regardez aux choses invisibles. Éphésiens 6. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Paul dira encore dans 2 Corinthiens 4, 18, « Ce qui est visible est donc passager, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Heureusement. Heureusement, parce que je dirais simplement, je ne sais pas ce que je fais là. Je ne me plais pas dans cette ambiance. J'ai un truc, ça ne marche pas. J'aurais voulu lire 2 Timothée 3, mais notez-le, lisez-le chez vous. C'est un passage important. Mais je n'ai pas le temps. Souvent aussi, des gens se sont plaints que la culture entrait dans l'Église. La culture du monde s'entend. Moi, je me demande même si la culture ambiante n'est pas en train de rentrer dans ma vie. En fait, je vais vous avouer une chose. C'est qu'aujourd'hui, peut-être c'est l'âge qui fait ça, je ne sais pas vraiment quelle est la limite entre l'influence du monde dans l'évolution des choses et la pureté dans laquelle le Seigneur veut me trouver. J'ai du mal entre le tout interdit et le tout permis. La première épître aux Corinthiens me rappelle toute une somme de déviations arrivées dans l'Église, et tant mieux qu'ils ont eu ces problèmes dans l'épître aux Corinthiens, dans l'Église de Corinthe, parce qu'au moins Paul en a parlé. Tous ces derniers temps, dans mon entourage ou chez mes proches, même mes collègues, on a été trouvés en flagrant délit, de soucis de mœurs, de divorce, de déviation en tout genre. Et ça nous a retourné. Et on s'est dit, ils sont allés trop loin. Ils ont lâché trop la bride. T'as vu comme ils sont tombés. Pourtant, ils savaient, ils connaissaient. Et peut-être vous, vous avez quelqu'un que vous connaissez, vous vous posez des questions. Comment il en est arrivé là? L'apostasie. L'apostasie, elle n'est peut-être pas là, ou elle n'arrive peut-être pas là, de là où moi je l'avais imaginé. L'apostasie, va nous déclarer Jude, vient souvent de l'intérieur de l'Église, des loups parmi les brebis, dont la description de Jude fait peur. Il change la grâce de Dieu en dérèglement. Il commence à toucher à cette notion fondamentale de la repentance. Alors aujourd'hui, dans nos milieux, on parle beaucoup de l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Moi, j'en ai une overdose de l'entendre. Mais alors la repentance, faut aller chercher loin. Le pardon. François, tu parles encore du pardon ? Eh oui, eh oui. N'est-ce pas cela qui a la valeur aujourd'hui dans l'amour ? Si l'amour est réellement vécu, le pardon doit être vécu avec. Et le pardon, c'est le nerf de la vie chrétienne. Pas de pardon, pas de vie chrétienne. C'est vrai, quelquefois on exagère. Souvent. Mais j'aime à me rappeler ce passage de Romains 6, verset 1. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Toutes les déviations, on les connaît. L'apostasie vient de l'intérieur. Renier le Seigneur. C'est vrai que le deuxième problème qu'on peut rencontrer aussi, c'est quand la parole de Dieu nous appelle à la soumission à Christ. Quand on parle de discipulat, d'être disciple de Christ, on va parler de la seigneurie de Christ. Pas mal de gens vont renier l'incarnation même de Dieu. Ça fait partie d'un des points névralgiques contre lesquels ils vont lutter sans arrêt. Les faux prophètes mettent toujours cela en exergue. C'est ces deux premiers points sur lesquels ils vont nous déverser pas mal de choses. Quand on voit la description de ces gens, il est dit dans Jude et dans 2 Pierre 2, on parle de penchant naturel, de mépris de l'autorité, ils sont arrogants, audacieux, se livrant au plaisir en plein jour. On parle de débauche, on parle de vice contre nature, de rêverie, égarement, cupidité, et ils font bonne chère, etc., etc., etc. Mais on parle de gens d'église qui vivent des choses telles que celles-là. Mais Jude va être très clair, la parole de Dieu sera très claire, la fin sera selon leurs œuvres. Et on va jusqu'à faire une comparaison de cette situation présente avec celle de Sodome et Gomorre qui va être détruite par le feu. Et c'est Dieu qui sera le juste juge. Et quand je dis ça, ça me fait peur, puisque la parole de Dieu va aussi déclarer que ceux qui paieront le double, ce seront ceux qui seront responsables de ces erreurs. Nous, on aurait envie de passer à l'action et de détruire tout ce qui ne nous convient pas. Mais même l'archange a laissé le soin au Seigneur de réprimer de telles personnes et de ne pas agir lui-même. Oui, ça me fait penser à ce fameux passage, je vous disais tout à l'heure, c'est plein d'épines ou de bombes. L'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse. Waouh, vous avez trouvé ça dans quelle page de votre Bible ? Ça sera un autre sujet. Il sera plus court celui-là. Je termine. Ma mission. Jude va jusqu'au bout. Et tant mieux. Et Jude va nous exhorter à plusieurs choses. Il va nous exhorter à nous exhorter. Exhortez-vous les uns les autres. C'est Annette qui, ces derniers temps, je ne sais pas si elle a fini ce livre-là maintenant, un livre qui s'appelle « Les uns les autres », c'est ça ? Ça fait partie. Exhortez-vous les uns les autres à combattre pour la foi. Exhortez-vous aussi, encouragez-vous les uns les autres en revenant sur l'histoire. Et Jude va revenir sur toute l'histoire du peuple d'Israël pour que nous puissions être encouragés et nous exhorter. Voir ce qu'ils ont vécu et vivez par-dessus ces choses. Édifiez-vous les uns les autres. Moi, ce que j'aime bien, je vais la sortir de son contexte, je vais sortir l'idée de son contexte, tout sûr. J'aime bien cette idée de compagnonnage, de se donner la main et de marcher ensemble. Les jeunes avec les moins jeunes, les jeunes avec les vieux, se tenir la main. Et j'aime mon rôle de grand-père. Et c'est là aussi l'utilité de prendre mon petit-fils ou ma petite-fille par la main et de marcher ensemble. Et elle en apprend, comme me disait un de mes enfants un jour, Dis papa, à chaque fois que je te pose une question, tu as une réponse. Où est-ce que tu sais tout ça? Ben, si tu savais mon fils, je ne sais pas. Édifiez-vous, compagnonnage, s'entraider. Il est parlé aussi de se maintenir dans l'amour de Dieu, au verset 21. Mais il va aussi plus loin. S'il y a le vrai amour, il y a aussi le fait de reprendre les uns et les autres, nous reprendre les uns et les autres. Alors je sais, là aussi, il y a différentes interprétations et différentes traductions qui sont données. Je l'ai pris, moi, dans le sens qui me convenait, mais il y a d'autres traductions. Prenez le temps de fouiller un petit peu. Si vous avez le temps, c'est très intéressant. Il va dire aussi un petit peu plus loin, verset 23, « Sauvez-en d'autres !» Sauvez-en d'autres, c'est encore le temps avant que le Seigneur ne revienne. On parle de salut, on parle aussi peut-être d'arracher de la situation certains faux prophètes. Entreprenez-le comme vous voulez. Par contre, pour d'autres, soyez sans pitié, mettez-les à la porte, parce qu'ils ne veulent plus se mettre en accord avec le Seigneur. Ils ne veulent pas demander pardon. J'ai peur de la persécution. Mais je dois noter que les chrétiens les plus affermis, je vais les trouver dans les pays persécutés. La persécution, comme dans les premières églises, nous oblige à prendre une position claire. Aujourd'hui, la culture actuelle semble encore raisonnable, supportable, même si on n'est pas d'accord. Jusqu'où ça ira ? À l'instar des vierges folles et des vierges sages, nous prions que le Seigneur nous trouve veillants et priants en attente de son retour dans un monde perverti. J'implore le Seigneur afin que je sois gardé selon sa promesse dans ses mains jusqu'au moment de son retour comme serviteur de ce Seigneur et maître de ma vie. Je lui demande de m'aider à mettre en pratique cette mission qu'il nous a confiée afin que, solidaires les uns des autres, nous puissions rester fermement ancrés sur ce rocher, ce fondement qu'est Jésus-Christ. Seigneur, préserve-moi de tomber. Amen. J'aimerais prier. Jude a reconnu ta divinité. Ta Seigneurie, il a reconnu que tu étais là pour son salut. Si lui l'a fait, c'est ce que je veux faire encore aujourd'hui. Merci Seigneur pour ton salut. Merci pour ta divinité. Merci aussi pour ton humanité. Tu as vécu comme nous. Tu as connu Seigneur ce qu'était la difficulté de vivre sur cette terre, dans l'ambiance du monde. Mais nous te remercions, parce que c'est nous aussi que tu veux protéger d'une manière spéciale pour rester digne de toi en toutes circonstances. Et par notre vie, tu veux nous aider aussi à transmettre cela à ceux qui sont autour de nous, à ceux qui ne sont pas chrétiens, le salut, à ceux qui le sont, la sanctification. Travailler ensemble pour aller de l'avant avec toi. Seigneur, nous reconnaissons avec beaucoup de simplicité. Nous avons besoin de toi. Dans le monde dans lequel nous sommes, tu vois, Seigneur, que c'est tellement simple pour nous de pouvoir être ou paraître comme tout le monde. Paraître comme le monde quand on est à l'extérieur. Paraître comme des chrétiens quand on est dans l'église. Et pourtant, Seigneur, tu veux nous voir vivre une éthique chrétienne partout. Je n'ai pas la force. Je te supplie, Seigneur, accorde-nous-la, puisque tu nous dis que tu nous appelles, Seigneur, à aller de victoire en victoire. Donne-nous, Père, de vivre réellement ces victoires par ta force, non pas pour nous, mais pour honorer ton nom. Amen.